Good. Fait qu'on est live, là. On est-tu live? Ben oui, on est live, mon Pete. Bonsoir, petite coquerelle. Bienvenue à Balado. Podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Salut Pierre, comment ça va?
Merci pour cette intro, merci. Je tiens à dire que j'ai eu un pot de vin pour participer à cette émission-là.
Oui,
c'est vrai. Oui, ça va, effectivement, merci. Toi, ça va?
Oui, ça va, quand l'appétit va, tout va, écoute. Le gars du Amir, il me dit toujours ceci, il me dit « Vincent, quand la santé va, tout va ». Puis derrière ce comptoir se cache une vérité très, très grande. Puis de la Christie de bonne bouffe, on va se le dire. Enfin, bref. Fait que, Pete, on est les deux tout seuls. Puis écoute, si t'es pas sur le live, ben j'ai fait une petite modification. Là, j'ai rajouté un background, puis en arrière de nous, c'est bien funky. Mais je voulais aussi faire une petite, une demande de coup de pouce, hein, une demande à l'aide. Parce que, vous savez, la gang de Balado Ludique, ben, on est un peu technonouille. On n'est pas super bon au niveau des réseaux sociaux. Fait qu'on a comme besoin un peu de vous autres pour partager un peu la bonne nouvelle qui est Balado Ludique. Fait que, tu sais, si vous aimez ce qu'on fait, ben, faites juste le partager sur Facebook, dire « Hey, ces gars-là, ils se prennent un peu trop au sérieux, mais tu sais, ils sont cool quand même. » Puis ils ont un modèle hors du commun avec leurs 30 minutes. Fait que faites ça. Faites juste ça, ça nous ferait bien plaisir. Moi, ça me ferait plaisir, en tout cas. Pierre, je sais pas si ça te ferait plaisir, mais bon, c'est pas grave. C'est sûr que Simon, il embarque là-dedans. Sur ce, Pierre, as-tu des nouvelles à nous apporter? Fraîchement fraîche.
Nouvelle fraîchement fraîche, ouais, je peux dire que j'en ai une qui est quand même pas mal d'actualité en ce 11 mars 2024. Il y a un nouveau jeu qui fait tranquillement parler de... Bon, en fait, tranquillement, mais sûrement, et avec une vitesse en accélérant, je dirais. Un nouveau jeu qui fait beaucoup parler, pas nécessairement parce que c'est un phénomène de jeu qui va vraiment fracasser la baraque du paysage ludique, mais plutôt parce que c'est quelque chose qui réunit des gros noms et qui va tenter de faire une mission assez noble. La mission assez noble, elle est assez simple. C'est un jeu qui va tenter de faire le pont entre les personnes de notre hobby, ceux qui sont des maniaques finis de notre hobby, avec ceux qui ne font que jouer à des jeux qu'on joue pendant le temps des fêtes une fois par année. Et qui vont probablement pas jouer à des jeux tellement évolués, je dirais. Des bons vieux classiques comme le Monopoly, comme le Scrabble, le Risk. Donc, c'est un jeu qui tente finalement d'intégrer des joueurs dans le monde des non-joueurs. Plutôt l'inverse. Et ce jeu-là, je dis qu'il réunit des gros noms parce qu'il réunit en fait ni plus ni moins que l'éditeur de jeux le plus gros sur la planète. Et j'ai nommé Hasbro.
Ah, OK.
Hasbro. Effectivement, on parle même pas d'Asmodée. Asmodée est une arrachée d'à côté. Hasbro, donc, s'il faut parler de Monopoly, il faut parler de tous ces jeux qui sont des jeux que tout le monde connaît, ben, on va parler de la compagnie qui les fait. Et puis, ben, les autres noms, moins connus qu'Hasbro, mais quand même assez bien connus dans le monde de notre hobby. Et on parle ici de notre Canadien, notre auteur national canadien, montréalais même, M. Eric Lang, qui est en arrière de jeux comme Blood Rage, Rising Sun, Inc.,
Récemment
Godfather.
aussi, Dune.
Récemment, Dune, effectivement, il a participé à Dune. En fait, beaucoup de jeux que M. Lang a fait. Et un autre auteur moins connu que M. Eric Lang, mais un auteur qui s'est associé à Eric Lang pour le projet, qui s'appelle, je pense, Dave Kroll. Dave Kroll, qui est K-R-O-H-L, il me semble. Beaucoup plus versé dans le domaine du jeu familial et de party, même. Ceux qui connaissent peut-être un petit jeu très, très loufoque qui s'appelle Happy Salmon. Ça vient de lui. Oui, exactement. Un jeu où est-ce qu'il faut courir autour de la table et puis faire des toutes sortes de simagrées pour se débarrasser le plus vite de cartes. Les deux compères se sont réunis pour faire un jeu qui s'appelle Life in Runeterra. Runeterra, qui est un monde fictif, qui est un clin d'œil finalement, qui est un jeu de mots pour dire Reterre, donc la nouvelle terre. C'est un jeu qui se déroule dans un monde post-apocalyptique, où on va jouer des peuplades d'humains qui essayent de se reconstruire après qu'il y a eu une dévastation sur la planète Terre. Et c'est très classique comme type de jeu dans ce qu'on, nous, dans le hobby, on est habitué de jouer. Mais c'est très, je dirais, facile d'approche parce que il n'y a pas beaucoup de règles, mais en même temps, il y a beaucoup d'options et de rejouabilité. C'est un jeu de territoire, mais individuel, où on va construire son petit lopin de territoire avec des espaces colorés de différentes couleurs qui vont servir finalement à nous imposer des conditions pour construire les choses qu'on veut construire. Ce qu'on construit, ça va être des tuiles. On va les prendre sur un plateau communautaire et chacune de ces tuiles va avoir un pouvoir d'associé à elle quand on va la poser sur notre plateau, dépendamment de où on la pose. Et ce pouvoir-là peut changer à chaque partie. C'est ça qui a fait l'aspect rejouabilité. Pour finalement faire suite à ce qu'on avait fait avec l'émission sur la rejouabilité. C'est des tuiles finalement qu'on va placer sur le plateau qui vont être déterminées par des cartes qu'on va prendre au début de la partie. Il va y avoir 6 types de tuiles et chacun des types de tuiles va être associé à une carte qui va faire un pouvoir quand on va placer la tuile. Alors, une sorte de tuile pour une partie va faire un pouvoir, alors qu'un autre, dans une autre partie, cette même sorte de tuile va faire une autre sorte de pouvoir. Et puis, ben, en plaçant la tuile, évidemment, ça va faire, ça peut occasionner de construire des bâtiments, ça peut aussi amener des survivants dans notre clan. Mais ça se limite à ça, c'est vraiment ça qui est juste ça, le jeu, en fait. Bon, évidemment, il y aura des petites règles de plus à expliquer, mais c'est vraiment ça la base, et c'est vraiment, on comprend juste avec ça que Lang et son comparse ont vraiment voulu, en fait, ils ont vraiment reçu la commande de Hasbro de vouloir faire partie maintenant de notre vie. Donc, c'est ça qui est. Puis le jeu, d'ailleurs, quand Hasbro est vraiment sérieux dans son approche, parce qu'il ne va pas juste faire ça aux États-Unis, la version en France est déjà sortie. Le monde de Reterra, ou la version en Allemagne va sortir aussi. Donc, c'est ça qui est la nouvelle, je dirais.
Wow, OK. Puis ils vont pas chercher non plus des deux de pique, là. Je veux dire, Eric Lang, c'est quand même un nom assez connu, là, merci. Puis qui est capable vraiment de bien jauger justement là, entre accessibilité puis complexité. Ben, c'est super intéressant. J'ai mis d'ailleurs le lien là, dans le chat. Merci beaucoup, Pierre. De mon côté, je vais être assez rapide. J'ai participé, je vous avais partagé que j'allais faire une vidéo avec Boris de la rue du jeu. Ben, elle est sortie jeudi passé, je vous partage le lien. N'hésitez pas à aller la voir, l'écouter. C'est une vidéo quand même longue, d'une durée à peu près d'une heure, où est-ce qu'on discute de vieux jeux, principalement le trois jeux. Donc, un que je présente, Boris en présente un, finalement Benjamin en présente un. Et on discute en fait de tout et de rien, là, dans cette espèce d'océan de différentes opportunités qu'une vague amène une autre vague, puis ainsi de suite. Très bon travail de découpage et de post-production de la part de Boris, parce que c'était une discussion qui avait duré 2 heures, et finalement, il a raccourci ça en 1 heure. Très bon travail, Boris. Ça se peut
Rien
qu'on
surprenant là-dedans.
rien. Comment?
Rien surprenant dans cette nécessité de faire du montage.
Ouais, je sais bien, je le sais, mais écoute. Ça, jusqu'à maintenant, il y a des bons feedbacks. Si vous avez apprécié la vidéo, ben, laissez un commentaire. Puis comme ça, bon, ben, Boris et moi et Benjamin, on va réitérer l'expérience. Alors, sur ce, Pierre, on est prêt à embarquer avec notre sujet du jour. Il s'agit de nul autre que les jeux avec et ou en app.
Oui, en app, pour évidemment dire à l'application.
Oui, application, tout à fait. J'essaie juste d'être un peu plus fancy puis un peu plus au goût de la génération actuelle.
Oui, en fait, on pourrait les appeler plutôt les jeux de hybridation digitale,
Oui.
parce qu'ils peuvent parfois impliquer d'autres choses que des applications.
Oui.
Oui, c'est un sujet, je pense, qui est intéressant à aborder du fait que. Il y a 10 ans, soit en 2014, ça faisait vraiment la grosse nouvelle, les jeux d'hybridation digitale dans le monde des jeux de société, parce que ça commençait vraiment à prendre un bon élan. Il y avait des jeux vraiment qui commençaient à faire parler, justement, parlons d'Eric Lang, parce que il a fait partie des personnes qui ont emboîté le pas il y a 10 ans pour ça. Avec un jeu qui, en plus d'être à hybridisation digitale, était aussi un jeu totalement asymétrique comme Root, mais qui n'était pas du tout compétitif, qui était coopératif. Et c'était un jeu basé sur un jeu vidéo qui s'appelait XCOM, où on
Oui,
est.
ben oui, c'est vrai, oui.
C'est un jeu qui s'appelait XCOM, basé en fait sur le jeu vidéo des êtres humains qui essayent de repousser une attaque d'extraterrestres. Mais qui n'avait absolument aucune façon commune d'être joué qu'avec le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo est un jeu, je dirais, qui va plutôt impliquer des commandos de personnes qu'on va positionner à gauche et à droite dans un écran pour essayer de piéger des extraterrestres qui vont essayer aussi de nous attaquer en guérilla. Dans XCOM, The Board Game, c'est beaucoup plus un aspect global qu'on a. C'est un aspect méta, même, je dirais, où on va avoir un survol de la planète et chacun des joueurs va avoir son poste à jouer pour essayer de prévenir les attaques des extraterrestres à une échelle géographique. Mais malgré tout, ça a été un succès. Un succès assez fort. Pour que on puisse commencer à se dire, est-ce que l'avenir des jeux de société commence à changer, commence à prendre un tournant technologique de plus en plus important. Parce que, bon, le jeu d'Eric Lang n'était pas le seul à sortir sur le marché à ce moment-là. On avait aussi chez les Européens, les Euros avaient leur jeu, et qui était l'équivalent, pas l'équivalent, mais qui avait aussi un gros buzz. Et son auteur, à vrai dire, n'a pas fait beaucoup de jeux. Il y en a fait un autre depuis qui a aussi fait parler assez bien, je dirais, en 2022. Jeu que Vincent possède dans sa collection, d'ailleurs. Le jeu en tant que tel de 2014, c'est Alchimiste. C'est un jeu de déduction très sophistiqué où il fallait, comme le titre l'indique, être des alchimistes, justement, qui essayaient de trouver les ingrédients d'une potion secrète. Mais l'idée, c'est que pour trouver les ingrédients de la potion, ça prenait une application qu'on téléchargeait parce que c'était l'application qui gérait les résultats de nos enquêtes. C'était absolument impossible d'intégrer un autre joueur dans la partie qui pourrait participer à la fois à l'enquête et nous donner des réponses, un peu comme quand on fait avec Clou, par exemple.
Oui, c'est ça, parce que de ce que je me souviens, c'est en fait le jeu devait avoir une personne spécifique attitrée à donner les informations aux joueurs selon la combinaison d'ingrédients qu'il faisait. Donc, c'était un peu un maître de jeu, là, ce qui fait en sorte que tu regardes les autres jouer pendant 2 heures de temps, puis toi, bon, ben, une fois de temps en temps, ils vont te demander quelque chose. Donc, c'est ça. Tant qu'à être sur ton téléphone cellulaire, ben, donne-leur un téléphone cellulaire, puis qu'ils jouent avec ça, là.
Oui, absolument, c'est ça. C'est essentiellement ça. C'est que ça empêche finalement un joueur de perdre son temps autour de la table. L'application est une forme d'intelligence artificielle justement qui est là pour nous donner les résultats qu'on demande par rapport à des tests. C'est très réussi comme jeu. Ça a même été réédité et ça est traduit forcément. C'est un jeu qui vient de la République tchèque. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Vincent, un autre jeu de cet auteur-là, Deal with the Devil, qui est un autre jeu aussi avec
Yes.
l'application. Un jeu d'application, par contre, qui cette fois-ci n'est pas il n'agit pas en tant que joueur qui regarde la partie, mais plutôt agit en tant que. En fait, on pourrait dire que oui, mais
Ouais.
c'est un jeu. Mais ça fait plus que donner de l'information, ça gère littéralement. Les actions des joueurs qui se déroulent autour de la table à chaque tour.
Ouais, un échange potentiel entre les joueurs, là, parce que. Puis, ce qui est intéressant aussi là, de Deal with the Devil, c'est le fait que l'application n'est pas aussi omniprésente qu'elle peut l'être dans Alchemist. Elle compose peut-être environ peut-être 10 à 20 % du jeu gros max, là, donc on ne joue pas vraiment avec l'application, c'est seulement sur une phase. Sur 7, puis il y a 4 rounds au total, donc c'est le 1 septième du jeu à peine, puis c'est très 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 rapide, où est-ce qu'on fait juste scanner un coffre personnel à chaque joueur, puis l'application va nous dire à qui on le donne, puis après ça, bon, ben, il y a des échanges là, par rapport à ça. Sinon, le reste du jeu, ben, c'est de la gestion de ressources là, très tissé serré. Puis ça combine aussi le rôle caché. Je sais pas si tu as joué, toi, Pierre. Je pense. Oui, tu y avais joué, mais tu disais que, dans le fond, le gros enjeu, c'était que, à cause de sa nature plus complexe, puis un peu moins instinctive, tu trouvais vraiment que le jeu pouvait facilement s'effondrer, si je me trompe pas. Est-ce que c'était bien ça, un peu, ton.
Oui, ben, c'est sûr que oui, effectivement, c'est le revers de la médaille de ce jeu-là, c'est qu'il est très sensible à l'erreur. Il peut arriver, par exemple, que ce que j'avais fait, en fait, ce qu'on avait constaté dans notre partie à nous, c'est il y a des joueurs qui avaient fait des choses qu'ils n'étaient pas supposés faire dans les échanges. Ça, l'application n'en tenait pas compte. Alors, en tant que tel, éventuellement, ça jouait dans les conséquences que ça pouvait avoir, parce que le fait qu'on s'échange des choses là-dedans donne des indices sur qui est un imposteur autour de la table, qui joue le rôle du diable, finalement. Et comme on n'avait pas, comme il y a des joueurs autour de la table qui avaient mal compris cette règle-là, dans les limites des échanges que les autres peuvent avoir par rapport à ce que le diable peut faire, ben là, tout le monde commençait à se demander qui était vraiment le diable. Parce que il peut avoir, selon ce qu'on faisait, il pouvait y avoir plus qu'un diable autour de la table. Alors qu'il y en a juste
Ouais.
un. Donc, c'est un peu ça, je dirais, mais je pense que la chose qui m'a été le plus soulignée comme je dirais faille du jeu ou point faible du jeu, c'est que il peut arriver dans la partie que le diable se fasse révéler. Parce que des joueurs peuvent deviner c'est quoi, mais c'est. Il y a juste 5 manches dans la partie. Et je pense que si ma mémoire est bonne, il y a juste pendant la
C'est
deux
la.
manches.
Ouais, ben c'est la manche. Tu dis 5 manches, là. Je pense que tu as raison, c'est 5 manches. C'est la manche 2 puis la manche 4, il me semble. Où est-ce qu'on peut faire des.
Manche 2 et manche 4, effectivement. Qui va faire les comptes finalement pour savoir, pour donner la chance aux joueurs de savoir qui serait le diable. Et si le diable est deviné à la manche 2, il y a des joueurs qui faisaient remarquer que ça peut devenir un peu, pour parler justement de l'application qui joue le rôle d'un joueur qui perdait son temps autour de la table, ça peut devenir un peu lassant pour le joueur qui fait le diable.
Ouais.
Parce que, mais C'est ça. Faut avoir joué plusieurs fois avec le jeu. Moi, j'ai juste joué une fois, fait que je pourrais pas confirmer ces dires-là, mais je pense que toi, Vincent, tu peux peut-être le dire.
Ben, en fait, c'est parce que, ben, premièrement, je suis pas vraiment d'accord parce que, oui, en effet, c'est un jeu qui mérite d'être joué à plusieurs reprises pour être capable de saisir ces subtilités-là. Mais surtout, le diable, son travail, c'est, premièrement, si tu te fais, si on te découvre au round 2, c'est que t'as pas bien joué ton rôle, et de un. Et de deux, tu vas quand même avoir eu des. Si tu t'es fait révéler à ce moment-là, ça veut dire que tu as eu des deals, des échanges très, 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 très fructifiés, florissants. Et donc, tu vas avoir assez de marge de manœuvre pour continuer à jouer. Puis de toute façon, le diable, nonobstant qu'on le découvre ou non, ça reste quand même qu'il reçoit vraiment plus de ressources que les autres joueurs. Et donc, s'il reçoit plus de ressources que les autres joueurs, ben les autres joueurs ont quand même une responsabilité, malgré qu'ils savent qui est le diable, de ne pas faire de marchandage avec lui. Mais pour le diable, c'est vraiment facile de faire des offres tellement alléchantes qu'on ne peut pas refuser. D'où la raison pour laquelle ça s'appelle Deal with the Devil. Donc, moi, je pense que c'est un jeu qui sort énormément des sentiers battus, qui sort aussi, en fait, de la masse. Et ça s'adresse pas à un public qui est habitué de jouer à des jeux euros, là. Plus moderne, si je peux me permettre de le dire comme ça, là, tu sais, ou moins dans l'optimisation, qui va vraiment, en fait, tu sais, je parle des joueurs, là, des fans finis des Ark Nova, des Barrage, des Barcelona, etc., etc. Donc, c'est certain que ces joueurs-là risquent de moins s'y retrouver parce que faut que tu caches ton jeu, faut pas trop que tu mettes un peu un flag sur toi en disant, ben regardez, je suis vraiment en train de vous défoncer puis d'optimiser toutes mes ressources. Donc, c'est difficile, en fait, pour un joueur qui est habitué de tout optimiser dans un jeu, de dire, OK, bon, ben je vais lowball. Je pense que c'est ça le plus gros. En fait, pour moi, c'est pas une faille, c'est une caractéristique du jeu qui peut être appréciée ou dépréciée. Donc, mais c'est ma perspective sur le jeu en soi, là. Mais somme toute, c'est un jeu que j'ai pas assez joué personnellement, puis que j'aimerais ça jouer davantage. Puis si je peux me permettre de rebondir un petit peu là-dessus, sur toute cette discussion-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'était justement l'engouement qu'il y avait, là, quasiment là, à la fin des années. À la fin de 2000, tu sais, de la décennie 2010, il y avait vraiment un engouement. Puis là, on voyait les jeux avec application sortir encore et encore et encore. Puis depuis la pandémie, on dirait que ça s'est vraiment, vraiment amenuisé. Ça a vraiment diminué. Je ne sais pas si c'est la pandémie, si les gens, en fait, je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Je sais pas si c'est l'espèce de tournure qui s'est prise par rapport au fait que ben les gens veulent jouer à des jeux sans leur téléphone. Puis on a tellement eu d'écrans pendant la pandémie qu'on n'en veut plus pendant qu'on joue. Est-ce que c'est le fait que aussi on a pris une tangente un peu plus pour des jeux à deux joueurs? T'sais, ou encore peut-être une tendance qu'on était sur des playtesting sur Tabletop Simulator, ce qui fait en sorte que tu essaies d'utiliser une app sur Tabletop Simulator, c'est pas optimal pantoute. Donc, il y a plusieurs. C'est quand même assez drôle de voir un peu cet engouement-là qui a diminué avec le temps, là. Donc, oui, c'est ça, c'était comme une grosse appréhension, j'ai l'impression que. Finalement, cette appréhension-là est un peu tombée à l'eau, là.
En fait, je pourrais être en désaccord avec toi là-dessus, mais c'est juste que je peux comprendre l'impression que ça donne, par contre. Parce que, bon, on a quand même parlé de deux jeux, XCOM et Alchemist, il y a 10 ans, qui venaient des stars quand même qui avaient fait leur nom, qui étaient déjà bien établis sur le marché. Alchemist, par exemple, était sorti chez CGI. Star Trek, finalement, le CGI. Ouais, c'est ça. Et puis, Star Trek qui est responsable de gros succès comme, par exemple, Mage Knight, The Board Game, qui pour The Ages. Et puis, bon, je là, c'est deux titres vraiment qui ont rien à cacher. Et puis, XCOM, en fait, c'était plutôt un jeu qui était sorti, je pense, chez
Ça, c'était pas
Z-Man.
c'était-tu
Oui,
Fantasy
Fantasy Flight.
Flight?
Peut-être pas Fantasy Flight, ouais.
Ouais, Fantasy Flight.
Donc, un autre gros éditeur fait pour les joueurs confirmés qui a vraiment donné des titres comme Twilight Imperium, ne serait-ce que pour en nommer un. Alors, c'était des. Ça donnait le ton, ça donnait. C'est pour ça que je pense qu'on avait probablement des espoirs que ça. Ou peut-être des pensées que ça pourrait commencer à dominer. Mais ce qui est arrivé depuis, je pense, c'est que les gens ont voulu avoir un peu plus d'interaction avec les applications. Quelque chose de plus sophistiqué encore que simplement un écran qui nous décrit qu'est-ce qui se passe. Parce que, bon, Fantasy Flight aussi, on sait, intégrer cette approche-là avec son jeu Mansions of Madness, qui est un jeu coop sur le monde de Lovecraft, qui avait connu une première édition qui avait floppé justement à cause d'un joueur qui jouait le rôle du maître de jeu, mais qui avait tellement de travail à faire pour animer le jeu comme il se devait, que ça devenait un peu trop laborieux, et c'est à cause de ça qu'ils ont fait une deuxième édition avec l'application qui faisait tout le travail, qui était un succès à ce moment-là. Mais on veut maintenant, je pense, des jeux qui vont aller plus loin que simplement des descriptions. Et il y a des éditeurs, littéralement, qui se sont lancés là-dedans. Ils ont vraiment l'approche de digital hybride d'un jeu de société, c'est devenu assez sérieux pour que les éditeurs en fassent entièrement leur ligne de production. Il y a un éditeur, par exemple, en Allemagne qui s'appelle Hyber, HYBR, qui a fait plusieurs jeux, en fait, jusqu'à maintenant. Il y en a, je pense, quatre ou cinq à leur catalogue. Leur dernier en date va être traduit par nos compères québécois de Synapse Games, un jeu qui s'appelle Finding Atlantis, qui était vraiment fameux, on va dire. Moi, c'est mon coup de cœur quand c'est sorti en Allemagne il y a 2 ans. Un autre jeu de déduction où il faut absolument avoir l'application parce que l'application va faire beaucoup de descriptions de ce qui se passe avec ce qu'on a, mais en plus, elle va nous gérer nos positions dans le jeu. C'est une application qui va plus loin qu'Alchimiste, parce que non seulement elle livre des informations sur les enquêtes qu'on fait, mais elle prend note aussi de comment les joueurs sont positionnés dans le jeu, dans une map sous-marine. Et ça, c'est fun. Ça, c'est vraiment bien. Ça,
Oui.
c'est là qu'on voit que l'intégration est bien faite. Un autre jeu, un autre éditeur italien cette fois-ci qui s'appelle X Explore X Explore. C'est un italien qui s'est chargé de faire des jeux où le plateau n'est pas le plateau est physique, mais il va y avoir une technologie, une espèce de barre de lecture infrarouge qui va être sur le rebord du plateau. C'est une technologie, en fait, que même Cool Me Your Not avait pensé intégrer dans ses jeux de zombicide, mais qui ont fini par laisser tomber. Et c'est une technologie qui permet, finalement, de faire une lecture physique de nos pions qui vont sur le plateau. Et c'est un peu comme si la technologie, finalement, enregistre l'image du plateau. Et ensuite, elle est capable de voir où notre pièce est située lorsqu'on la positionne sur un endroit dans le plateau, grâce à la barre qui est posée, une barre finalement qui peut avoir peut-être 2 cm de haut. Et dans le 2 cm de haut qu'elle a, ben, il y a comme une espèce de scanner, je dirais peut-être. Ce serait probablement ça, un numérisateur qui va tout le temps être en constante activité pour savoir ce qui se passe sur la surface du plateau, et elle va être capable de repérer nos pions où ils sont sur le plateau et les réintégrer dans l'image qu'elle a du plateau.
Toi, tu parles du jeu de Bad Karmas and the Curse of the Zodiac, c'est bien ça?
Il y a Bad Commerce and the Curse of the Zodiac, mais il y a aussi un jeu sur l'univers de Vampire, The Internal Struggle, qui est sorti, qui fait ça.
Tout à
Et
fait.
qui va faire d'ailleurs une narrative, très forte sur la narrative, qui va nous expliquer ce qui se passe quand on va amener un pion sur un endroit dans la ville de Milan, parce que c'est dans la ville de Milan, ce jeu-là. Mais ça va plus loin que ça, parce que le jeu va même être capable de sentir. De deviner quels sont les résultats qu'on a sur un lancer de dés qu'on va lancer à côté du plateau. Parce que les dés ont des puces à l'intérieur qui sont liées à l'application et à la technologie qui permettent d'indiquer à la technologie quels ont été les résultats qui ont été obtenus quand on les a roulés. Donc, c'est là qu'on voit la chose à son plein potentiel.
Oui.
Ça nous rappelle finalement le jeu aussi qui est sorti en 2016 qui s'appelle Beast of Balance, qui était une
Oui.
merveille. Tu possèdes, que je possède, parce que moi, quand j'avais vu ça, j'avais complètement été stupéfait. Je suis tombé de ma chaise. Jeu de dextérité d'empilement où chaque pièce que vous empilez va faire une activité dans l'application que vous avez allumée à côté. Parce que le socle a des composantes intelligentes qui permettent d'être reliées à ce qui se passe dans l'écran de votre application. Et ça, c'est juste rien.
Oui.
C'est ça, en fait, que je cherche.
L'affaire, oui, je pense que, ben, premièrement, Beast of Valence, ce qui est intéressant aussi, c'est son effet un peu Pokémon, où est-ce qu'on veut créer des différentes espèces, puis là, on les empile, puis on les jumelle ensemble. C'est de créer aussi cet univers-là, ce genre de monde-là imaginaire avec tous ces animaux-là. C'est super intéressant, tu sais. L'affaire, c'est que là où est-ce que moi, j'étais un petit peu. Là où est-ce que j'ai une nuance, en fait, c'est que il y a beaucoup de jeux que tu parles qui sont vraiment des innovations en tant que telles. Ce qui est malheureux, c'est que tu le sais comme moi, la plupart du temps, ces jeux-là vont, en fait, malheureusement, un peu passer sous le radar pour la simple et bonne raison que, ben, ils n'ont pas le spotlight ou le soutien médiatique pour être capable d'être vu par tous. Ce qui fait en sorte que la plupart du temps, ben, t'sais, tu parlais justement là, d'applications qui vont juste simplement un peu nous narrer qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Ben, t'sais, puis tu parlais de Mansions of Madness. Mais t'sais, moi, j'ai en tête Journeys to Middle-earth,
Oui, il fallait un peu.
qui fait la même chose. On parlait aussi de. On pourrait parler aussi là, de. Voyons, celui qui est sorti, une troisième édition, Descent, où est-ce que là actuellement, au lieu d'avoir un joueur qui joue le méchant, ben finalement, il est pas le méchant, là, il est juste simplement avec les autres joueurs, puis ben l'application t'amène à. Être rivé dessus pour voir qu'est-ce qui se passe, quel territoire faut mettre, quel terrain faut ajouter. Il y avait Chronicles of Crimes aussi qui était intéressant, qui était sorti, mais Chronicles of Crimes, le problème, c'est qu'à un moment donné, je pense que le principe, c'est un petit peu, c'est un petit peu essoufflé parce que ce qu'on se rendait compte, moi, juste avec la première boîte, malheureusement, ben, à un moment donné, c'est que on est constamment arrivé sur l'écran, puis on fait juste regarder qu'est-ce que l'écran nous dit, quelle carte aller ajouter. Et ça reste en fait toujours un enjeu, je pense. Et puis on en parlait en fait dans une des anciennes épisodes. Une chose que moi j'apprécie beaucoup des jeux dans l'édition, c'est qu'on utilise la composante optimale pour arriver à ses fins. Puis je trouve que l'application, des fois, ben, au final, oui, elle facilite la tâche, mais est-ce que c'est elle qui est la plus optimale pour l'immersion? J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Tu sais, on parle de Descent justement avec l'application qu'on est toujours obligé de suivre, là, puis que là, ça devient un petit peu lourd. Puis en contrepartie, ben, tu sais, je pense automatiquement à des jeux comme Kingdom Death Monster ou encore d'autres, Gloomhaven par exemple, qu'il n'y a pas d'application. Il y a une application qui a été faite en tierce partie et ça va être la deuxième partie du balado. Je le sais qu'il est 21h35, mais savez-vous quoi? On va dépasser parce que on a juste parlé des jeux avec app. Maintenant, ça va être les jeux qui sont transférés en application. Ça fait un beau segue parce que justement, Gloomhaven a d'une part une app pour présenter, pour en fait nous aider dans la mise en place, pour éviter justement là, de tourner les pages ad vitam aeternam dans les différents livrets qui sont inclus dans le jeu. Mais aussi, Gloomhaven a été transféré en application et semble avoir eu plus. En fait, il semble être très, très, très réussi. Et la question, en fait, est assez légitime de se dire jusqu'à quel point qu'un jeu reste un jeu quand on tombe, en fait, dans cette application-là et qu'on préfère y jouer directement dans l'application plutôt que sur la table. Puis l'exemple par excellence, c'est pas nécessairement Gloomhaven, parce que je pense qu'il y a des fans finis de Gloomhaven qui vont continuer à y jouer parce qu'ils adorent le fait que ça inclut des gens autour d'une table, il y a une histoire qui se crée, surtout que c'est une campagne. Mais moi, le jeu qui me vient principalement en tête et que je n'ai jamais vu en fait sur une table, jamais, je te le dis, Pierre, peut-être une fois, c'est, puis tu l'as mentionné, Through the Ages, de notre ami cher Vladaj Vatil. Through the Ages, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je n'avais jamais joué et on m'avait vanté l'application. Et en effet, l'application est extraordinaire pour non seulement enseigner le jeu, mais aussi être capable d'y jouer, puis d'y jouer à répétition pour vraiment s'accoutumer avec le jeu. Parce qu'en tant que tel, Through the Ages, le gros enjeu de ce jeu-là, son talon d'Achille selon moi, c'est que c'est un jeu qui va durer au moins 3 heures quand tu le sors autour d'une table. Et quand tu le sors sur la table. Et non seulement ça, il faut que tu aies des joueurs qui veulent jouer 3 heures de temps. Et en plus, il faut que tu ailles à peu près 5, 8, 10 parties pour vraiment saisir qu'est-ce qui se passe, puis vraiment comprendre comment est-ce qu'on a un impact sur les autres, puis comment est-ce qu'on peut venir leur donner des coups de couteau en dessous de la table. Surtout que c'est un jeu qui est euro, puis qu'à un moment donné, quand tu te fais donner des coups de couteau, il faut que tu sois capable de remonter la pente. Puis c'est extrêmement difficile pour un nouveau joueur qui se retrouve avec ce jeu-là entre les mains, contre des joueurs expérimentés. Ce joueur-là, c'est sûr, certain qu'il va se faire défoncer. Et il y a comme de quoi de particulier, parce que la plupart des gens qui sont amants de Through the Ages, ce sont des joueurs qui ont 50, 60 parties à travers l'application. Quand tu leur demandes combien de parties tu as faites physiquement, ils peuvent le compter sur les doigts d'une main. Évidemment, il y a des exceptions à la règle. Mais ça reste quand même qu'il y a une réflexion à avoir par rapport à ce genre de jeu-là quand il est plus intéressant à jouer en application que sur la table.
Oui, forcément. Forcément. D'ailleurs, petite erreur de ma part, désolé, mais c'était pas CGI que je voulais dire. Tantôt, c'est C.
CGI, je pense.
CGI, exactement, oui. Pour les Czech Board Games Edition, qui est la compagnie qui a fait Through the Ages et Mage Knight et Alchemist.
Oui.
Oui, effectivement. C'est sûr que ça aide beaucoup d'avoir des jeux en version application ou même sur Board Game Arena. Des jeux de ce calibre, parce que oui, on va quand même faire les aveux que c'est toujours plus pratique d'avoir, quand un jeu implique énormément de calculs, c'est toujours le bienvenu d'avoir une machine qui est là pour l'y faire à notre place. Et ça va forcément être intéressant pour ça. Ça n'empêche quand même pas non plus les gens de jouer la version sans la machine. C'est peut-être ça, en fait, le point faible, je pense. Le véritable point faible, probablement, des jeux avec les technologies qui sont amenées, c'est que c'est des technologies. C'est pas seulement parce qu'il faut les. Qui ont besoin d'être promus pour être connus. C'est qu'une fois qu'ils sont promus, Alchemist a été réédité, XCOM un peu moins. Mais l'idée, c'est qu'il faut avoir l'esprit que ça peut finir par devenir désuet à cause de la technologie, qui est un médium beaucoup plus facile à faire évoluer, plutôt qui est peut-être plus actif dans le domaine de l'évolution que le jeu de société lui-même. L'autre chose aussi, c'est que ça l'apprend, la technologie. On a l'impression souvent qu'on est dans un monde où tout le monde a accès à la technologie, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors qu'un jeu de société, ben, ça ne nécessite rien d'autre que des êtres humains autour de la table. Donc, c'est probablement ça qui ralentit la chose.
Puis il y a un autre point aussi que tu me fais penser. En fait, le gros enjeu des jeux avec application, c'est qu'ils ont besoin de storer l'application sur une base de données. Et par exemple, Play Store ou t'sais, App Store, whatever. Mais l'enjeu, c'est que c'est très coûteux mensuellement, annuellement, de garder cette application-là en vie, de faire des mises à jour. Et surtout quand tu vois que le jeu, ben écoute, il est plus, comment je peux dire, il est plus vraiment, il y a plus de copies en circulation. Tu parles de Alchimiste, justement. Je trouve ça encore particulier que Alchimiste a cette application-là qui est encore disponible, puis qui est encore en train de rouler, puis qu'on pourrait aller télécharger immédiatement, puis qu'il n'y aurait pas de problème là-dessus. Il y a des manières, évidemment, de contourner tout ça, mais ça reste quand même un enjeu là, de storer ces données-là en tant que telles. Mais pour ce qui est de. Puis un autre enjeu, en fait, que tu mentionnes indirectement, tu parles de la longévité, en fait, du jeu. Puis c'est là où est-ce que moi j'ai un problème avec peut-être Board Game Arena, particulièrement là, avec tout ce qui est du jeu en ligne. Puis je vais te donner un exemple super concret. En fait, deux exemples. J'ai joué 50 parties de Puerto Rico sur BGA. Ce qui fait en sorte que, et de un, j'ai plus envie de sortir ce jeu-là sur la table. Parce que, ben, pas que j'ai plus envie, c'est que j'en ai moins envie. Mais surtout, je suis obligé de dire aux joueurs autour de la table, ça se peut que je vous ramasse solide ce game-là. Parce que j'ai accumulé trop d'expérience, puis je connais ce jeu-là comme le fond de ma poche. Puis là, je vais te donner un exemple encore plus récent, qui est le jeu Far Away, qui vient tout juste là, de sortir, là, ben, qui sort très, très, très bientôt, qui a été nommé là, à l'As d'Or. Je pense même, c'est ça, il a été nominé à la catégorie initié. Far Away, j'ai commencé à y jouer, Pierre, sur BGA, je pense, jeudi. Puis depuis jeudi, j'ai, sans blague, j'ai 50 parties de jouer. Pas parce que j'ai. Puis bon, oui, il y a mon côté compulsif, puis mon côté un peu comme je suis pas capable de me gérer quand j'ai du fun, puis quand je veux. Je veux jouer. Mais surtout aussi parce que, bon, une partie sur BGA te dure 8, 9, 10 minutes. T'as un joueur qui est disponible de façon quasi instantanée. Puis, ben, c'est accessible en tout temps. Puis, la question que je me pose, c'est j'ai-tu envie d'acheter ce jeu-là? Parce qu'au final, j'apprécie énormément sa forme numérique, sa forme physique, sa forme, t'sais, sur la table. Je suis même pas sûr si je vais avoir du fun à le sortir parce que pour moi, c'est un jeu de 7-8 minutes. Mais là, de devoir m'asseoir, de l'expliquer, puis que là, il y ait 3-4 têtes pensantes autour de la table, que là, va devoir faire de la manutention avec des cartes, puis que finalement, c'est un jeu qui dure une demi-heure. J'ai pas de fun, j'ai pas, j'ai au, je ne retire aucun plaisir de ça. Puis en plus, ben, c'est un jeu qui n'est pas super interactif. Donc, l'intérêt de le sortir sur la table pour que je fasse mon petit tableau de 8 cartes, puis que toi, tu fasses ton tableau de 8 cartes, que Steve fasse son tableau de 8 cartes, que Simon fasse son tableau de 8 cartes, qu'Antoine fasse son tableau de 8 cartes, ben, au final, on va faire notre score à la fin, puis le joueur qui a le plus de points, ben, il gagne, puis ça vient de s'éteindre là. C'est comme si ce jeu-là se prête super bien sur l'application, mais physiquement, j'ai peut-être de la difficulté à dire que je vais le sortir régulièrement. Ce qui ne fait pas en sorte que je déprécie le jeu en tant que tel, mais c'est comme si je creuse le jeu et là, je le tords, je l'approfondis, je me l'approprie. à un point tel où est-ce que je suis même pas sûr si ça vaut la peine que je m'achète une copie. Donc, est-ce que c'est positif au final pour la compagnie de, tu sais, pour les éditeurs, pour les distributeurs, d'avoir cette accessibilité-là instantanée, puis que ça retire des clients sous une certaine forme qui iront pas acheter le jeu parce que de toute façon, il est disponible en ligne. Je sais pas un peu si tu comprends un peu le point que j'essaie de d'amener là, cette
Oui, je comprends très bien. Mais malheureusement, je pense que si on s'étale là-dessus, on va littéralement doubler la durée de l'émission. Donc, il va falloir qu'on s'arrête là pour en reparler une autre fois par là.
Bon, Pierre qui est raisonnable. C'est rare, Pierre, que tu es raisonnable. Habituellement, là, tu m'amènes à être déraisonnable. Là, tu veux être raisonnable. Pour moi, demain, il faut que tu te lèves. Faut que tu te lèves tôt, hein, c'est ça?
Contraire.
Bon. Ben, sur ce, j'aurais vraiment aimé ça, en fait, approfondir cette portion-là. Peut-être pour un prochain épisode, là, donc les jeux en application. Puis peut-être même on pourrait faire un épisode sur Board Game Arena en tant que tel. Je sais qu'il y a énormément de joueurs qui adorent Board Game Arena. Donc, je pense que nous, à Balado Ludique, on est peut-être un peu moins adeptes de ce genre d'implémentation-là. Sauf pour quelques petites exceptions près. Donc, ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir cette discussion-là pour un autre épisode. Mais bon, je m'écarte. Ben écoute, merci beaucoup, Pierre. Est-ce que tu aurais un mot de la fin?
Continuer à jouer entre humains.
Voilà. Continuez à jouer entre humains. Des humains que vous connaissez, des humains que vous êtes capable de toucher. Ben, touchez-les pas s'ils ne veulent pas, mais que vous êtes capable de voir physiquement. C'est tellement mieux, hein? Une bonne game de Loenert ou de Verratan, où est-ce qu'on s'envoie promener. Sur ce, mes amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis, comme à l'habitude, mon nom est Vincent, ça n'a pas changé. Son nom est Pierre, ça n'a pas changé non plus. Et on vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bon jouage!